Bonsoir. Une série de tueries est enregistrée depuis le début de la semaine dans la province de l'Ituri. Le dernier cas en date est celui de 38 personnes tuées hier mercredi par des hommes armés au village de Tché, dans la chefferie de Baé Manor. À ce jour, on compte plusieurs villages incendiés et plus de 70 personnes tuées. Face à cette situation d'insécurité, le gouverneur de l'Ituri, Jean Babanissa, demande à la population de garder le calme et aux assaillants de cesser les violences pour consolider la paix dans cette province. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 13 juin 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Fimeon Banga Tombe. Il est président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Monsieur Tombe, bonsoir. On me signale qu'on a perdu la réalisation, essaie de le rappeler. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, il est député national élu de Bougnaville. Monsieur Irachan, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Dismas Kitenge, activiste de droits de l'homme et vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre à Bounia, dans la province de l'Ituri, sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Une série de tueries est enregistrée depuis le début de la semaine dans la province de l'Ituri. Le dernier cas en date, je l'ai dit, est celui de 38 personnes tuées hier mercredi par des hommes armés au village de Tché, dans la chefferie de Baé Manor. Ce jeudi, dans la ville de Bounia, la tension était vive au deuxième jour du deuil décrété par les EMA pour honorer la mémoire des victimes des tueries survenues dans les territoires de Djougou. Plusieurs jeunes venus de la localité de Chari ont manifesté pour exprimer leur ras-le-bol. Les points de la situation avec Martial Kiza, Biamungu et Dona Madimba.
Papi Martial Moukeba, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui explique cette escalade de violence depuis le début de cette semaine à Ituri?
Tout est parti du meurtre des quatre personnes par des hommes armés non autrement identifiés au village de Zibiti situé entre les localités d'Elizi et Bambou. Les victimes qui appartiennent toutes à une même communauté s'est rendues au marché d'Iga Barrière au bord d'un véhicule. Elles sont tombées dans une embuscade tendue par des hommes armés non autrement identifiés qui ont ouvert les feux sur les véhicules. En représailles, des contestateurs ont tué deux personnes à Mungwalo à 80 km au nord du Bouya dans les territoire de Djougou, toujours selon le bourgmestre de cette commune rurale. Deux policiers ont été aussi tués au village de Ngoté, dans la chefferie de Banyarikilo, par des manifestants. L'administrateur du territoire de Djougou, Alfred Bongwalanga, a annoncé également les meurtres de quatre personnes d'une même communauté, dont trois femmes, par un groupe de manifestants au village de Parangazak. Du coup, plusieurs autres villages de Djougou ont été la cible des assaillants, où deux maisons ont été incendiées et deux morts enregistrées. Le dernier cas est celui signalé par la société civile locale mardi matin au village de Tse, à chefferie du Baé Manor, dans le même territoire. Ici, 38 personnes ont été tuées par des hommes munis d'armes blanches et à feu. Ce bilan est encore provisoire car d'autres corps continuent à être découverts.
Combien y a-t-il de morts depuis le début de ces violences?
C'est difficile pour le moment de donner le chiffre exact des personnes déjà tuées ces derniers jours dans plusieurs villages à Djougou. Des corps continuent à être ramassés et les exactions se poursuivent dans plusieurs villages. D'après plusieurs sources sur place, les chiffres peuvent être estimés à plus de 70 morts, mais le gouverneur des provinces Jabamanissa Saïdi avance les chiffres d'environ 50 personnes tuées.
Quelle est alors la situation maintenant au chef-lieu de province avec cette insécurité à Djougou?
La situation est restée tendue depuis les matins dans la ville de Bounia au deuxième jour des deuils décrétés par la communauté EMA contre les exactions dans les territoires de Djougou. Plusieurs centaines de jeunes EMA venus de la localité périphérique de Chari sont descendus dans les grandes artères de la ville pour manifester leur colère. Des altercations avec d'autres jeunes du sous-quartier à Biaya ont été évitées par la police qui a renforcé ses effectifs dans plusieurs coins de la ville. Mais retenez qu'un hélicoptère de l'armée a survolé depuis le matin les centres-villes de Bounia.
Merci, Kizavia Mungu et Donna Madimba Gracien de Saint-Nicolas, Irachon. Je rappelle que vous êtes député national élu de Bougnaville. Comment vous analysez cette situation?
Bon, c'est une triste situation. D'abord, je tiens à compatir avec toutes les victimes, probablement de toutes les communautés qui sont touchées, notamment les Alour, Amagi, les Hema, les Lindou, les Nande aussi qui sont touchés, parce que hier on a tiré même sur des véhicules qui étaient en voyage avec des chauffeurs Nande et toutes les autres tribus. Je tiens à les réaffirmer mes sincères condoléances, mais il y a aussi des éléments des FARDC qui sont partis, qui sont morts, et en plus de la police nationale congolaise. Donc c'est ma circonscription pratiquement qui est indé et qui vit un moment de violence pour le moment. Mais je tiens à rassurer d'abord ma communauté, ma circonscription, que tout est sous le contrôle de la police et de l'armée et qu'ils doivent collaborer pour le moment afin que tout se passe bien.
Qu'est-ce qui explique cette tuerie?
Cette tuerie s'explique tout simplement par la faiblesse de l'État congolais. Je vous donne un exemple facile. Quand vous voyez ce qui se passe en Ituri, je peux vous citer cet article de la Constitution qui sont violés pratiquement. Parce que la RDC, c'est un état de droit. C'est un état où, normalement, si les textes étaient respectés, tout serait bien fait. Je donne l'article 16 de la Constitution qui dit, par exemple, que tout homme est sacré. Tout humain est sacré. Et l'État congolais est censé les protéger. On ne les protège pas. Aujourd'hui, il y a défaillance. Et dans ce même article-là, on dit toute personne a droit à la vie, au développement et à sa personnalité. On ne veut pas qu'une personne soit esclave. Et il ne peut pas être soumis à un traitement cruel. Aujourd'hui, nous sommes dans ce traitement cruel-là. On ne peut pas soumettre un humain à un traitement dégradant. Ni il ne peut être astreint à un travail forcé. Aujourd'hui, nous sommes dans des travaux forcés parce qu'on a pris des communautés en otage. On a violé l'article 16, on a violé l'article 28 par exemple, où on dit ni n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Aujourd'hui, on trouve un imbroglio où les autorités administratives donnent des ordres qui ne sont pas légaux, des ordres qui ne cadrent pas avec l'administration de l'État. Des militaires ou des policiers qui exécutent des ordres mal donnés. Et ça crée des problèmes, la violation avec l'article 28, où tout agent de l'État doit normalement suivre la procédure normale. Aujourd'hui, on a violé l'article 36, par exemple, où le travail est un droit. Aujourd'hui, dans ces territoires de Njougou, aujourd'hui, les gens n'ont pas de travail. La protection contre le chômage n'est pas assurée. Aujourd'hui, il n'y a pas une rémunération équitable et satisfaisante.
Est-ce que c'est ça qui explique ces tueries?
Exactement. Donc, pour dire en gros que si aujourd'hui, il y a des tueries, c'est parce qu'on n'est pas dans un état de droit, un état où l'État est censé respecter son engagement envers la population, en plus de tous plusieurs articles comme 42, 51, 52 et 58 aussi qui sont violés. Donc il y a plusieurs dispositions de la Constitution qui sont violées et qui débouchent aujourd'hui à quatre problèmes essentiels que nous connaissons aujourd'hui, notamment les problèmes de gestion des ressources naturelles qui posent problème. Les problèmes, parce qu'on sait que l'Ituri, c'est une province qui est riche en or, en pétrole, en bois, poissons, etc. Il y a les problèmes, par exemple, de terres. La gestion des terres, où on devrait revoir les lois en matière de la gestion des terres. Les Belges, à l'époque, il a donné des concessions quand il n'y avait pas encore un accroissement démographique. Aujourd'hui, le nombre de la population a multiplié. On croit qu'on est à plus de 500% même de croissance, à 500% de croissance. C'est un problème. Aujourd'hui, il y a la mauvaise justice au niveau de la province. Donc, quand l'appareil judiciaire est en panne, au détriment des pauvres, on rend pour les riches, ça pose un problème. Et quatre, aujourd'hui, c'est devenu une affaire, un business qui profite aujourd'hui aux hommes d'affaires, aux hommes politiques, mais aussi à d'autres pays qui sont en train de produire et vendre au Congo. Donc, c'est une situation qui est générale, qui profite à certaines personnes bien identifiées. C'est là où, par exemple, moi, j'ai initié pratiquement des lettres pour que le procureur général, qu'il puisse interpeller et qu'ils fassent des enquêtes pour interpeller les leaders qui sont associés à ça, parce qu'ils sont au sein de la communauté. Les gouverneurs, l'ancien gouverneur Penembaka l'avait déjà dit, qu'il y a des assaillants, ils étaient bien localisés et on savait les coins d'où ils venaient,
rien
n'a été fait. Donc on est face à un problème, à une irresponsabilité de l'État congolais qui fait aujourd'hui que tout le monde est en train de mourir délibérément.
Est-ce qu'on connaît l'identité de ces personnes, de ces assaillants? Vous, en tant que député, selon
les informations que vous avez reçues, est-ce qu'on connaît l'identité de ces assaillants?
Alors, c'est là où il y a la situation qui est problématique. Vous savez qu'en Ituri, c'est un millier qui était fortement armé à l'époque, avec la guerre interethnique en 2003. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 démobilisés. En fait, c'est plus de 30 000 démobilisés. Et tous ces gens savent manier les armes. Vous allez aujourd'hui, un démobilisé qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas manier les... qui n'a pas d'emploi, il peut revenir vers les armes facilement et il peut tirer. Et aujourd'hui, les assaillants qui sont là, la plupart sont dans les groupements qui appartiennent aux chefferies Lendu, de Lendu Piti par exemple. Il y a la forêt qu'on appelle forêt Wago, le littoral du lac Albert où on partage avec les Bahema Banyuagi. Ils sont là, on les connaît, ils sont dans la montagne. Et il n'y a pas moyen de les affronter parce que c'est cette forêt-là, parfois, on ne sait pas l'atteindre parce que cette forêt est très compliquée et aussi dans les montagnes, les véhicules, les motos ne circulent pas. Donc, ça fait en sorte que ces assaillants qui sont dans ces territoires, dans ces terroirs des chefferies Lendu, on ne sait pas les atteindre. Et maintenant, ça prend un mouvement où toute une population est prise aussi en otage. À un moment donné, on a vu qu'il y avait des FARDC qui sont allés demander de l'eau potable dans un village et quand les villageois Lendu leur ont donné, il y a eu revanche où on est venu incendier tous les villages Lendu. Mais malheureusement, tous ces gens qui sont entrés d'omettre des forfaits, ils vont dans des villages Hema, ils tuent sans pitié. Et maintenant, toute la communauté Hema doit fuir parce qu'il y a toute cette population Lendu qui est prise en otage et qui doit accompagner les gens dans la guerre et ça fait en sorte qu'il y a des tueries de masse. Donc, pour me résumer, ce qui tue aujourd'hui, principalement, ce sont des gens qui sont bien connus, qui sont dans des groupements Lendu et qui sont appuyés par des...
C'est un groupe armé ou
c'est là où on n'a jamais si identifié. Mais on est en train de dire avec la déclaration récente d'un officier militaire que c'est un groupe qui s'organise. L'ancien gouverneur Penembaka avait dit tout simplement qu'il y a une rébellion à gestation. Donc, c'est un groupe armé. Aujourd'hui, c'est des parties à conflit. Donc, on doit noter à dire que c'est un groupe organisé aujourd'hui qui tue et qui est assimilé à un groupe de personnes bien identifiées au sein de certaines communautés Lendu, mais où on retrouve aussi d'autres tribus qui sont en train de prêter main forte. Je donne un petit exemple pour terminer.
Rapidement.
Oui, je donne un exemple pour terminer. On voit par exemple chez les FRPI, là où il y a des vols de bétail. Vous trouvez qu'on vole aujourd'hui plus de 2000, 5000 bétail, mais quand vous allez dans cette région-là, ces bêtes n'existent pas là. Donc il y a une complicité où les bêtes traversent même la frontière, vont ailleurs, avec des personnes qui sont bien identifiées au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des leaders communautaires, au niveau des assaillants.
Mais aucune disposition n'est prise.
Aucune disposition.
Merci Gracien de Saint-Nicolas, Iratchana. Nous devrions avoir dans cette émission le président de l'Assemblée provinciale de Ituri. Malheureusement, il vient de se désister en dernière minute. Donc, on va faire l'émission sans aucune autorité provinciale de la province de Ituri. Dismas Kitenge, activiste de droits de l'homme et vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Quelle est votre lecture par rapport à ces tueries enregistrées depuis le début de la semaine dans la province de l'Ituri?
Merci beaucoup, Madame Kelly Kunte. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent. À mon avis, il faut d'abord cerner les problèmes. Le problème de l'insécurité à Ituri n'est pas un problème fourre-tout. C'est-à-dire, il faut mettre aussi les dates dedans, il faut éviter de mettre les problèmes économiques, les problèmes sociaux, qui sont les problèmes qui affectent toute la République démocratique du Congo. Mais les problèmes de Ituri, à mon avis, d'abord, c'est un problème sécuritaire. Un problème sécuritaire dû principalement à la persistance des conflits armés. Nous savons que cette région, depuis une vingtaine d'années, traverse des conflits armés caractérisés par des groupes armés locaux qui commettent des violations graves du droit international humanitaire des droits humains. Et voilà, ça c'est la présence d'abord des conflits armés. Et ces conflits, la présence des conflits armés suppose donc, entraîne automatiquement la présence des groupes armés. Et des groupes armés qui commettent ça. Et deuxièmement, c'est l'inefficacité des forces de sécurité, de défense congolaises pour arriver à pacifier la région, pour arriver à neutraliser les groupes armés. Ensuite, un autre problème qui est un problème liée à la perception, liée à la compréhension, liée à l'analyse des conflits par des communautés. C'est ce que j'appelle la tentative d'instrumentalisation et de politisation des communautés des locales. Puisque nous avons suivi l'intervenant de tout à l'heure, pointer un groupe ethnique, qu'est les Lendous. Les problèmes de l'Ituri, on sait les années les plus reculées qu'il y avait quelques problèmes fonciers qui ont donné l'explosion des conflits de nature communautaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème de l'Ituri, à mon avis. Le problème de l'Ituri, c'est que l'armée ne réussit pas à assumer le rôle de neutraliser les groupes armés qui sont encore opérationnels, la circulation anarchique des armes. Mais la lecture, quand le problème arrive dans une région déjà fragilisée par les conflits, par les conflits d'ordre identitaire, le problème est vite perçu ainsi. Et nous savons aussi le contexte électoral et post-électoral, et ce que j'appelle tentative d'instrumentalisation des politisations. À mon avis, ce sont les trois principaux problèmes, dont résistance des conflits armés. Et au-delà de, ça, de ces trois problèmes, il y a aussi un autre problème important, Madame Kelly, qu'il faut souligner à mon avis, c'est l'impunité. L'impunité des auteurs intellectuels et des auteurs matériels des graves violations de droits humains, droits internationaux humanitaires. Vous savez qu'il y a eu des procès qui ont été organisés récemment par la justice militaire, mais ces procès n'ont pas abouti à arrêter, à sanctionner le vrai auteur. Les vrais auteurs qui sont encore les éléments des groupes armés, qui se retrouvent de part et d'autre, qui sont encore actifs dans la région. Donc la justice, et ça l'intervenant de tout à l'heure, a souligné que c'est un problème. Donc l'impunité généralisée des auteurs intellectuels et matériels de ces graves violations de droits humains permet à rendre la région, en plus de ces trois éléments que je soulignais, tantôt la région ingouvernable. Mais évidemment, tout cela montre, et l'intervenant de tout à l'heure a souligné, que c'est la faiblesse de l'État congolais. La faiblesse de l'État congolais, couplée aussi par le fait que les forces onusiennes qui sont sur place, comme ces forces sont venues soutenir l'armée congolaise, et si l'armée congolaise n'est pas efficace, elle aussi a des problèmes. Et dans ça, l'imbroglio là, qui a été souligné, de l'inefficacité des forces de sécurité de l'armée est due à plusieurs facteurs internes à l'armée, aux forces de sécurité externes. Mais alors, je veux dire aussi un élément sur ces forces onusiennes. Permettez-moi, Madame Kelly, de glisser quelque chose en guise de facteur. Nous avons entendu, il y a la brigade d'intervention, on a parlé beaucoup de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui a donné des résultats au Nord Kivu contre le M23 et qui avait la capacité de mener seul les actions militaires contre les groupes armés avec ou sans l'appui de la MONUSCO. Et cette brigade devrait être vraiment déployée à Ituri pour traquer les groupes armés et leurs auteurs. Ça pourrait aussi contribuer à la pacification de la région, puisque nous avons un précédent dans ce domaine-là. La force Artemis qui était arrivée à Ituri à l'époque avait donné des résultats importants. Couplé de ces facteurs-là, ça pourrait donner la pacification de la région. Donc,
alors, Dismas Kitenge, vous...
c'est comment pacifier.
Dismas Kitenge, vous parlez de l'inefficacité des forces de sécurité pour neutraliser tous ces groupes armés qui sont dans cette partie de la République. Est-ce que c'est parce que on n'arrive pas à les neutraliser parce que ils sont plus forts que les FRDC ou parce que cette situation est entretenue?
Donc c'est en partie entretenu puisque on ne donne pas le moyen nécessaire à l'armée de faire le travail, et puisqu'il y a des complicités à plusieurs niveaux, il y a des complicités au niveau local, il y a des complicités au niveau national et aussi des complicités au niveau sous-régional. Et il ne faut pas non plus penser seulement à l'inefficacité de l'armée dans le contexte local de l'Ituri. Mais il faut voir aussi les voisins qui sont proches. Nous avons l'Ouganda qui est proche de nous. Nous avons la région du Nord Kivu qui est proche de l'Ituri, où les groupes armés sévissent, entraînent la circulation des armes Et ça, lorsque les moyens, l'armée n'a pas le moyen nécessaire. Les moyens n'est pas que le moyen logistique. Il y a aussi les moyens financiers, qu'on paye bien le militaire, qu'on le soutienne. À un moment donné, il n'y a pas quelques mois, vous le savez très bien, Madame Kelly Kunté, que il y a eu des militaires qui se plaignaient de ne pas avoir leur ration. Il y a eu des policiers qui se plaignaient de n'avoir pas été payés. Il fallait qu'il y ait des interventions. De telles actions, ça crée la démotivation des éléments des forces de sécurité congolaises qui sont appelés à être dans le front. Mais il y a aussi ce qui est très important, qui décourage l'armée, les forces de sécurité, c'est qu'à un moment donné, on prend l'option militaire pour terminer la crise sécuritaire dans la région, et à un moment donné, on dit non, mais l'option militaire ne paye pas, on se réfugie sur l'option politique. Il faut négocier avec les groupes armés. Alors que l'option militaire devrait être l'option de dissuasion de ces groupes armés.
Merci, Dismas Kitenge.
Les options politiques.
Merci.
Quand on fait cette complexité, ça ne donne pas de résultat.
Merci, Dismas. On vous redonne la parole tout à l'heure. Gracien de Saint-Nicolas, Irachon, certaines autorités locales et nationales seraient-ils derrière cette situation?
Bon, je l'ai dit, c'est à tous les niveaux pratiquement, comme l'a dit Kitenge, Dismas, c'est à tous les niveaux qu'il y a un problème, c'est une situation générale. Moi, je commence par les niveaux internationaux. Moi, j'ai rédigé une lettre à Madame la représentante des Nations Unies sur la résolution 2389, qui, au Nord Kivu, on a regretté la mort des civils, et on a eu à trouver, comme mon co-débatteur a dit, on a trouvé une solution pour créer une brigade spéciale. Mais pourquoi aujourd'hui, en Ituri, ça ne se fait pas? Bon, je ne dis pas que les Nations Unies sont complices, mais quand même, il y a une certaine passivité. Mais aussi, on a un problème avec les littorales du lac Albert, où la frontière est poreuse. Les lacs donnent sa frontière sur l'Ouganda. Et nous, on avait à l'époque même donné des signaux, que ce soit la société civile, que ce soit aussi les activistes politiques, qu'il y a des armes qui entraient par les littorales de lac Albert. Mais à ce moment-là, les renseignements ne nous ont pas suivis. On a eu même la société civile de Magui qui a crié qu'il y avait des armes qui entraient par la collectivité, la chefferie de Magui, du moins la chefferie de War, et qui passaient par une localité dont je perds le nom, Paparongote, et ça allait vers Berunda. Nous avons décrié la situation. Il n'y a eu aucune action. Donc, quelque part, la frontière pose un problème. Aujourd'hui, on n'a pas un ambassadeur accrédité en Ouganda qui ne sait pas suivre ce qui se passe entre la relation entre la RDC et l'Ouganda. On ne sait pas suivre tous les mouvements des groupes qui opèrent, parce que chaque fois quelqu'un fait les dégâts et il va en Ouganda, il se réfugie. Aujourd'hui, on a des acteurs qui donnent n'importe quel discours sur les réseaux sociaux. Ils sont hébergés en Ouganda et on ne sait pas les suivre parce que tout simplement ils sont en dehors du pays. Au niveau des leaders nationaux, il y a des tireurs de ficelles. En fait, il y a des responsables qui commandent cela, même à partir de Kinshasa. Ce sont des leaders politiques. Parce que, et quand il y a division en Ituri, et ils tirent leur divinade. Aujourd'hui, je vous donne par exemple l'exemple des contrats qui est très mal signé, où on n'a pas respecté le code minier, les MGM. Un contrat sur les ressources naturelles, où on devrait par exemple bien exploiter les ressources, les mettre au profit de la population, mais ces contrats créent que des conflits, et on voit qu'il y a des dispositions qui sont violées, et personne n'en parle. Donc, quand on a des problèmes comme ça, aujourd'hui, on est en train de déboiser pratiquement la forêt de l'Ituri. Personne n'en parle.
Et donc, la motivation de ces assaillants serait, entre autres, piller les ressources naturelles de la RDC.
Je veux dire que c'est entretenu pour des raisons économiques également. Mais maintenant, il y a ces leaders locaux qui tirent profit aussi de ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils sont en complicité pour faire des revanches. Par exemple, parce qu'il avait des conflits avec telle famille. Et on a vu comme ça, il y a des gens qui vont se rabattre pour tuer des gens. Donc, aujourd'hui, je réaffirme que les deux communautés, l'Hindou et Hema, sont prises en otage pratiquement par certains leaders qui veulent s'imposer. Donc, le problème est du niveau local. C'est là où j'ai adressé la lettre au procureur général pour qu'on fasse des enquêtes au niveau des civils, qu'on établisse des responsabilités. Le problème est au niveau des militaires qui font des transactions, soit des ventes de munitions, on le connaît. Ils sont devenus aujourd'hui des importateurs de véhicules. Aujourd'hui, on a des généraux qui sont en train de faire des commerces, des bières au niveau de la frontière. Ça pose un problème. Donc, on ne peut pas avoir des hauts commandants militaires militaires qui sont en train de s'associer à des business. Tout ça, ça pose. Mais heureusement, aujourd'hui, on a eu quand même une réponse avec l'état-major général qui a répondu à la préoccupation des parlementaires et du gouverneur, mais aussi des autres leaders. Et on a envoyé une troupe qui est consistante aujourd'hui, qui est en train de remettre la sécurité sur le terrain, une troupe disciplinée qui travaille effectivement pour la population. Et on a arrêté beaucoup d'officiers
cette
parce qu'on
veut... Depuis quand elle est là, en Ituri, parce que hier, il y a eu encore des massacres.
Oui, il y a eu des massacres hier, effectivement. Mais c'est le problème, c'est que, bon, moi, je ne suis pas militaire, mais je me réserve parce que je ne suis pas aussi de l'armée. Mais en fait, il y a des stratégies militaires. On vient avec une troupe, on ne peut pas les déployer au même moment partout. Donc, il fallait que le général qui est là puisse voir un peu les aspects techniques, comment il peut déployer, comment il va intervenir. Et voilà, on a vu quand même les deux jours, il y a eu progression. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les localités qui étaient sous tension, quand même, on voit qu'il y a un effort où il y a quand même respect de la dignité humaine. On a tué maintenant dans d'autres localités, parce que je profite pour le dire, quand les gens se vident des villages, parce que les modes de tuerie sont atroces, les gens fuient. Et quand ils fuient, ils laissent les villages vides. Et même des trois personnes qui viennent, même des enfants égarés, des bandits, ils peuvent venir, ils mettent de feu et ça crée encore la panique et il y a encore un mouvement qui se crée. Et c'est comme ça qu'il y a même deux, trois, quatre qui se dissimulent. On dit voilà, les assaillants sont dans tel territoire, ils sont dans tel coin et ils arrivent et tout le monde fuit. C'est ce qui s'est passé même avant que je vienne ici. Déjà, on disait qu'il y a certaines localités qui sont en feu. C'est parce que la population a déserté tout simplement. Maintenant, il y a des gens. Donc, la population devrait aussi faire un effort pour résister et collaborer avec la FRDC et la police pour que tout se passe bien et qu'il y ait résistance aussi.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas. On va prendre pour vous Dismas Kitenge, cet auditeur Joseph, qui nous appelle depuis l'Ituri.
Koutou Abrako Joseph depuis Ndokolo, province de l'Ituri. C'est regrettable de voir que la période post-électorale qui devrait être une période de développement de la province soit une période où les sacs de fils et filles de l'Ituri doivent couler. À mon avis, le gouvernement provincial devrait constituer un comité mixte pouvoir consulter toutes les communautés locales du territoire de Ndjougou et ses environs en vue de trouver une solution amiable, sans oublier que la population doit être à la base de cette consultation.
Dismas Kitenge, c'est une piste de solution pour que la sécurité revienne en Ituri.
C'est une piste de solution, mais piste de solution secondaire. La piste principale, c'est renforcer les capacités de l'État congolais à pacifier la région. L'État congolais a dans ses obligations la sécurité et la sécurité des personnes, de leurs biens, le respect de l'intégrité territoriale, et ça, avec ou sans la collaboration des populations locales, l'État doit être à mesure de le faire. Concrètement, c'est qu'il faut que notre armée, nos forces de police, nos forces de défense, l'armée, soient à mesure de relever les défis, de neutraliser les groupes armés, d'identifier ces groupes, ces auteurs de cette insécurité, de tuerie, les arrêter. Les services de renseignement doivent être opérationnels. L'Agence nationale des renseignements, la DGM, les renseignements militaires doivent faire leur travail. Mais ensuite, c'est tout à fait vrai aussi, et ce que je dis, c'est secondaire, c'est que les populations doivent aussi contribuer. Et les populations doivent cesser de penser que c'est une communauté qui veut, à travers cette insécurité, imposer sa supériorité sur l'autre problème. Nous avons déjà ces préjugés, ces précédents dans la région de l'Ituri. Et chaque fois qu'il y a l'insécurité, il y a cette tentative d'instrumentalisation et de politisation du conflit de l'insécurité, de rendre les communautés antagonistes pour qu'on échappe au vrai problème. Donc le vrai problème, c'est la situation sécuritaire et c'est l'État qui doit le faire. Et ensuite, les populations qui sont là peuvent aider la population comme toute population. Mais il ne faut pas penser que le problème est d'abord entre Ituriens. Hein, à mon avis, il n'y a pas ce problème. Il y a eu des groupes armés qui ont été là. Les groupes armés qui sont là et les groupes armés qui ont des revendications aujourd'hui d'entrer dans l'armée nationale et d'entrer avec reconnaissance de leur grade, d'obtenir une amnistie
générale sur les actes qui ne soient pas poursuivis. Mais ça, ça ne peut pas se faire, puisque ça, ce sont des violations, c'est contribuer à l'impunité des graves violations de droits humains et de droits internationaux et humanitaires. Puisque le victime de ces tueries, les victimes de ces graves violations aux droits humains ont droit à la justice et à la réparation. Et c'est l'État qui doit les soutenir. Malheureusement, cette option d'une justice répressive, pénale, pour restaurer les victimes dans leurs droits, n'est pas encore une option fermement soutenue par le gouvernement congolais. Et voici ces sentiments-là que les populations ont parfois d'être abandonnées et de se dire que ça devient un problème de l'Ituri et des communautés. Non, c'est un problème de l'insécurité et c'est le devoir de l'État. Et c'est l'État qui est responsable premier pour assurer la sécurité des personnes, de leurs biens. Ensuite, les populations contribueront à donner les informations. Ça, c'est leur travail et n'est pas responsabiliser la population d'une faute qui incombe à l'État qui est incapable aujourd'hui de remettre de l'ordre la paix en Ituri.
Merci Dismas Kitenge. Nous aurions vraiment souhaité avoir une autorité provinciale de l'Ituri dans cette émission pour essayer d'apaiser la population et nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises pour que le calme revienne dans cette province. Malheureusement, elles ont toutes décliné l'invitation. On va prendre aussi pour vous cette réaction honorable Gratien de Saint-Nicolas Iracho, une réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Nous faisons voler Mboka à partir de Beni au Nord Kivu. Je crois que cette situation est la suite logique de l'absence de l'autorité de l'État à l'est du pays. Face à cette situation, le président actuel doit se distinguer par les actions pour y remédier, sinon on croira à la continuité au sens négatif et ainsi se prendre en charge.
Alors, tous pointent l'État, voilà, on parle de l'absence de l'autorité de l'État.
C'est ça le problème. Et là, je tiens pratiquement, je ne suis pas du FCC, je ne suis pas du CACH, je suis de la Mouka, je tiens à remercier Félix Tshisekedi, le président, parce que nous l'avons vu. Et il a répondu rapidement à nos attentes. Et je tiens à féliciter aussi le général Mbala, qui est le chef d'état-major général, qui a répondu rapidement aux attentes des Lituriens. Parce que nous avons dit au chef de l'État, cette responsabilité vous récompense. Donc si aujourd'hui les gens meurent, les gens se déplacent, c'est vous. Donc je donne raison à cet auditeur pour dire qu'aujourd'hui nous avons un État qui est pratiquement défaillant. Et il faudra que le président Félix Tshisekedi évite ces pièges-là effectivement de faire la continuité de ce qui existait. Heureusement, il vient de répondre. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'il a envoyé une nouvelle armée, aujourd'hui qui va sécuriser la population, avec une police qui va être réformée. Mais il faut que cette armée, cette police soit effectivement au service de la population. Parce que nous, on connaît, après, il y aura des tracasseries qui vont s'en suivre. Mais on n'est pas là. Pour le moment, comme le débatteur l'a dit, il faut stopper d'abord les TRU et en plus, on va entamer des dialogues. Mais je vous dis que la guerre interethnique n'existe pas en Ituri. Et je vous donne les faits. Parce que même les Lendu et les Hema, ils fouillent ensemble aujourd'hui. Ils vont sur les lacs ensemble vers l'Ouganda et ils se déplacent ensemble. Ils sont en train de cohabiter ensemble en Ituri. Et quand on a vu même les rapports de Mova Sakanye, l'ancien ministre de l'Intérieur, quand il est passé en Ituri, il avait même dit qu'il n'y avait pas une guerre interethnique en Ituri. On a vu pratiquement la mission des parlementaires en Ituri de la législature passée où ils ont conclu qu'il n'y avait pas de guerre interethnique. Aujourd'hui, les combats s'étendent jusqu'au territoire des Mahagi. Ça veut dire quoi? Il y a un groupe de gens qui cherchent à faire imploser la situation, à exploser la situation partout dans la province de l'Ituri. Donc, il n'y a pas, en tout cas, la guerre ethnique. On faut qu'on renforce l'autorité de l'État. Aujourd'hui, on doit revoir les soldes des militaires. On doit revoir les soldes des policiers. On doit les équiper. Je vous donne un exemple où l'administratrice adjointe de Mahagi m'a appelé pour dire il n'y a même pas de véhicules pour les FRDC à Mahagi. Comment ils vont aller secourir la population civile? Il n'y a pas moyen. En Djougou, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de charrois automobiles. La police n'est pas équipée à Mahagi, n'est pas équipée en Djougou. Mais on pouvait avoir des hélicos. On peut avoir des pays qui peuvent nous donner. On peut signer des accords, on donne des hélicos, des avions, des chasses et nous allons neutraliser. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Les petits Rwandais qui est à côté, c'est faire des efforts quand même. Donc nous aussi, on peut le faire. Et quand vous voyez même l'attitude de nous au Parlement, ça pose un problème. Nous, les législateurs, ministères, nous ne savons pas parfois intervenir à temps. Moi, j'ai fait un discours pour interpeller le Parlement. Mais vous voyez tous les parlementaires, à une grande partie, en train de négliger la question sécuritaire. Vous vous exposez sur la sécurité, les gens sont en train de penser à autre chose. Donc, il y a une responsabilité, une défaillance au sein même de l'équipe qui dirige la RDC. Et là, c'est la population qui doit sanctionner, qui doit faire appel au président pour que tout se passe bien. Donc, moi, j'ai réaffirmé à ce que le président Félix, qu'il puisse soutenir un effort pour que le pays change, pour que l'Ituri, parce que le problème de l'Ituri aujourd'hui, c'est pas seulement l'Ituri, parce que moi, dans toutes mes motions au Parlement, j'ai parlé toujours de l'Ituri du Nord Kivu et du Sud Kivu, où il y a toujours des groupes armés qui opèrent. On a plus de 120 groupes armés. Donc, on peut terminer aujourd'hui l'Ituri, mais par contre, ça va, ailleurs, ça va continuer, et pourtant, ce sont des humains qui sont en train de mourir. Donc, l'autorité de l'État est à souhaiter à renforcer partout dans ces contrées.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas, Irachon, les auditeurs, ils sont nombreux à appeler, malheureusement, on peut pas tous les prendre. On va prendre un dernier auditeur qui nous appelle encore une fois de l'Ituri. Ça sera pour vous, Dismas Kitenge.
Aboubakar Issa, depuis la localité de Badengaïdo dans l'Ituri. Vu la reprise de tueries dans la province de l'Ituri, ça montre à suffisance que le gouvernement congolais n'a pas trouvé la vraie solution pour cette guerre qui ronge la province de l'Ituri. Et le nouveau gouverneur doit se ressourcer davantage en consultant les différentes parties qui sont en conflit pour savoir les vraies causes de cette situation.
Dismas Kitenge, la paix n'avait pas été bien, n'a pas été bien consolidée dans cette province de l'Ituri. Le gouverneur devrait se ressourcer auprès des partis en conflit pour connaître le vrai motif de cette situation. Mais qui sont les partis en conflit?
Les partis en conflit, j'aime bien les dire et le répéter, c'est d'abord les groupes armés qui sont là. Les groupes armés locaux. Les groupes armés locaux qui bénéficient de l'appui des autres groupes armés d'autres régions et mais aussi des complicités sous-régionales avec les pays voisins qui nous entourent, qui contribuent d'une manière ou d'une autre à armer ces groupes armés, à entretenir l'insécurité dans la région. Voilà, il y a la circulation anarchique. D'abord les groupes armés et les groupes armés et leurs complices. Les groupes armés et leurs complices. Les complices sont à plusieurs niveaux. Il y a au niveau local, au niveau national et au niveau sous-régional. Donc voilà les parties en conflit pour vous répondre. Et l'armée congolaise doit les traquer, doit traquer ces groupes armés et tous leurs complices qui se retrouvent à plusieurs niveaux. Ensuite, le gouvernement provincial, c'est un problème de sécurité nationale. Le gouvernement provincial est limité. Le gouvernement provincial utilise les forces de sécurité et de défense nationale, qui ne rentrent pas dans leurs prérogatives, ça rentre dans les prérogatives du gouvernement. C'est le gouvernement. Mais le gouvernement, les membres du gouvernement provincial, ce qu'ils doivent faire, c'est de constituer les relais du gouvernement central, de constituer l'interface entre les populations et les institutions nationales, ensuite de pouvoir disposer également de moyens d'influence, les moyens d'influence des problèmes
locaux. Lesquels, par exemple?
Mais la sécurité, les problèmes locaux, c'est-à-dire d'identifier les groupes armés qui sont là, d'engager tant soit peu le dialogue avec ces groupes armés. Les autorités provinciales doivent le faire, elles ont le moyen de le faire.
Mais tout à l'heure, vous étiez contre le dialogue. Vous étiez contre le dialogue tout à l'heure, Dismas Kitenge.
Non, les dialogues n'est que le dernier moyen à utiliser. Ce n'est pas le premier moyen à utiliser. Face à des tueurs de population, face à des gens qui prennent les armes, face à des gens qui utilisent le moyen violent pour exterminer les populations, on ne peut pas d'abord dialoguer avec eux. L'État doit avoir les capacités de le neutraliser et de le mettre à la disposition de la justice pour les sanctionner. C'est quand seulement ces gens sont déjà à la disposition de la justice ou quand ces groupes armés ou ces assaillants sont connus et qu'ils veulent déposer les armes. Eux-mêmes disent que nous déposons les armes et nous voulons être dialogués. Mais on ne peut pas dialoguer avec les gens qui ont des armes, qui tuent les personnes, qui pille les biens. Et dialoguer avec ces gens-là, c'est entretenir un climat d'impunité.
est avouer la faiblesse et l'inefficacité de l'État. Il faut que ces gens-là soient d'abord désarmés. Ou s'ils ne veulent pas être désarmés aussi, à ce moment-là, eux-mêmes déposent les armes. Ils déposent les armes et ils s'engagent dans la paix. Mais on ne peut pas dialoguer avec les gens qui sont avec les armes et qui continuent à semer la terreur en tuant les gens. Donc ça, c'est reconnaître la faiblesse. Alors je disais ça tout à l'heure, ce que les autorités provinciales peuvent faire, c'est évidemment d'identifier ces personnes-là, d'envoyer les informations au niveau de l'État et de demander l'appui du gouvernement central qui dispose de l'armée, des forces de sécurité pour faire aider à identifier la volonté de la population. La volonté de la population, donc voilà, ce que le gouvernement doit faire, résoudre les problèmes locaux qui se posent. Mais ça, c'est un problème d'envergure nationale. Ils doivent engager des moyens forts dont le gouvernement national dispose. Voilà, à mon avis. Même quand il faut dialoguer avec ces gens, quand ils auront déposé les armes ou ils auront été neutralisés, à ce moment-là, la paix et la justice doivent aller de pair. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une prime à l'impunité.
Les gens qui ont tué les populations, merci, Dismas.
On leur donne des grades, on les met dans l'armée.
Merci Dismas Kitenge, Gracien de Saint-Nicolas Irachon. Nous tournons vers la fin de notre émission. Un message d'apaisement à toutes cette population des Litouri qui vit des moments difficiles en ce moment.
Vraiment des moments difficiles parce que la ville de Bougne est débordée par les déplacés, mais je tiens à les rassurer que la police est là, l'armée est là, nous veillons. Et moi j'ai donné mes numéros partout, ils peuvent me contacter pour les renforcer, pour les appels et les mettre en contact avec les autorités. Mais je tiens à louer les efforts déjà des actions pacifiques, mais aussi de certaines personnes comme à Mongolo par exemple, où toutes les communautés se sont réunies et ils ont dit non, plus question de guerre, nous c'est samedi, on va abattre une vache et puis on se réconcilie. Parce que là, il y a les Lendu, il y a les Hema et d'autres tribus du Congo. Il y a par exemple à Kbandrouma où il y a eu des sensibilisations. On a dit non, laissons cette histoire, ça ne profite à rien. Donc les jeunes doivent savoir que la guerre ne profite à rien, ça détruit. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont en train de faire de la promotion de la guerre, ce sont les jeunes qui n'ont pas vécu la guerre interethnique à 2003. Donc ça pose un problème. Je vais terminer par dire que les désordres que nous connaissons aujourd'hui au sein du gouvernement, où on n'a pas un premier ministre, où on n'a pas de ministres, d'un gouvernement, ça pose un problème au niveau de la base. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas de preneur de décision. Moi, je vous donne un exemple. J'ai posé la question orale aujourd'hui avec des bas. J'ai demandé à ce qu'on puisse interpeller, qu'on appelle le premier ministre, à pouvoir répondre qui sont les assaillants Nitouri, pourquoi on ne sait pas mettre fin aux tueries au Nord Kivu, Sud Kivu et à Nitouri. Personne ne peut répondre. Et on est hors délai aujourd'hui. Même l'Assemblée ne sait pas me répondre. Et pourtant, il y a une question orale qui est là. Donc, la faiblesse de notre gouvernement est en train d'handicaper la situation à de mauvaises conséquences des répercussions sur la population civile. Il faut que le président Félix fasse un effort pour qu'il y ait un gouvernement qui soit formé le plus tôt possible.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas Irachon. Dismas Kitenge, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, il faut que les forces de sécurité, l'État donne le moyen nécessaire aux forces de sécurité. Il faut que l'État lutte contre l'impunité. Et il faut que l'État privilégie dans sa démarche la paix et la justice.
Merci Dismas Kitenge, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais, Dona Madimba sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Merci à Lengoy qui était à la mise en onde de micro Kelin Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.